Bonsoir, frères et sœurs. J'espère que vous avez pu passer de bonnes semaines, accompagnés de la grâce du Seigneur dans ce que vous entreprenez, au niveau du travail, à la famille, à la maison, à l'école, pour chacun d'entre nous. Ce soir, nous nous retrouvons à nouveau et je vous invite donc, avec les notes qui étaient envoyées, à retrouver votre Bible dans Colossiens. Colossiens chapitre 1 et versets 21 à 23. Il est important de situer notre passage dans son contexte. Qu'est-ce que Paul est en train de parler ici? D'abord, il vient de parler du plan de Dieu pour Jésus-Christ. Ça, c'est ce qu'il faut compléter. Là, j'ai fait commis une erreur. C'est pas un de 19 à 20, mais un de 13 à 20. 13 à 20. Donc, il vient de parler du plan de Dieu pour Jésus-Christ. Rappelez-vous, il parle de sa prééminence, de sa suprématie, c'est-à-dire il est au-dessus de tout, tout. Ainsi, maintenant, il parle du plan de Dieu pour les Colossiens. Du verset 21 à 23, ce qui nous intéresse ce soir. Et rappelez, est-ce que vous remarquez comment il commence? Il commence ainsi, « Et vous ?» Et vous, il s'adresse à eux. Puis, il va parler du plan de Dieu pour Paul, du verset 24 à verset 29. Vous remarquerez le changement, il passe maintenant de vous, il passe à je, parlons de Paul, Paul qui parle, j'ai été fait, etc., etc. Donc, parlons du plan de Dieu pour les Colossiens, c'est ce qui a complété. Le plan de Dieu a pour but notre salut. Dieu ne veut qu'aucun périsse, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais le but de notre salut, c'est la sainteté. Donc, le plan de Dieu a pour but notre salut en vue de la sainteté. C'est ce qu'il faut compléter. Pour comprendre l'immensité de l'œuvre de Christ en notre faveur, et je dirais la gravité du péché, il faut se rappeler d'où nous venions, dans le bourbier du péché dans lequel nous nous trouvions, et savoir qui nous étions, et maintenant ce que Dieu veut nous faire devenir en Christ. Donc c'est la logique de Paul en écrivant ici. Il ne veut pas qu'ils oublient d'où ils étaient venus dans le passé pour arriver maintenant à être en Jésus-Christ. Ce qui nous fait regarder le premier point, la description de notre passé. Ça, c'est à compléter. Vous y étiez autrefois. Vous voyez bien le temps du verbe au passé. Et vous, il parle des Colossiens. Le péché a détruit l'harmonie parfaite entre l'homme et son créateur. Ça, nous voyons depuis le livre de la Genèse. Et l'homme a tourné le dos à son créateur. Pour décrire l'état de péché dans lequel il se trouve, ici Paul utilise le mot étranger. Le terme en grec veut dire coupé, exclu, séparé. Et c'est le cas de nous tous. Avant la conversion, tout, c'est ce qu'il faut compléter, tous les hommes étaient complètement séparés de Dieu. Regardez Éphésiens chapitre 2, versets 12 à 13. Je veux souligner les mots qui sont importants, décrivant leur passé sans Dieu. Souvenez-vous, vous voyez le rappel d'où nous sommes venus. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, sans espérance, sans Dieu dans le monde. On peut le résumer ainsi, c'était quelqu'un qui a vécu pour lui-même où Dieu est complètement exclu de sa vie. C'est le cas de nous tous, avant que nous sommes venus à Jésus-Christ parce que Dieu a eu miséricorde et pitié à notre égard. Non seulement nous sommes étrangers, séparés de Dieu, mais aussi ennemis. Le mot ennemi en grec ici traduit peut se traduire aussi celui qui est. Donc, les incroyants haïssent Dieu, c'est ce qu'il faut compléter, et déteste les normes de Dieu qu'il impose parce qu'il aime commettre les œuvres mauvaises. C'est ce que nous lisons dans ce passage. Donc, ici, je voudrais vous inviter à lire Éphésiens 4, hein, juste verset 17. Ici, vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées, étrangers à la vie de Dieu, c'est ce que nous venons de dire, à cause de l'ignorance qui est en eux. Juste une petite remarque, ce n'est pas une manque d'information, mais c'est une volonté délibérée de tourner le dos à Dieu. La preuve, regardez juste ce qu'il dit après, à cause de l'endurcissement de votre cœur. C'est ce que nous étions avant que Dieu nous sauve par le moyen qu'il nous a donné en Jésus-Christ, hein, qui est celui qui nous permet de venir à Dieu en plaçant notre confiance simplement totale dans ce que Jésus a accompli pour nous réconcilier avec Dieu. Et vous voyez, par ces deux choses, c'est qu'une vie de pécheur va remplir l'homme de pensées hostiles envers Dieu et aux choses de Dieu. Vous ne pouvez que voir tout autour de vous, hein, la réalité de ces choses. Et alors, la question c'est que, comment Dieu s'est-il pris pour nous faire passer de l'état d'hostilité contre lui à l'état d'harmonie avec Dieu? Nous sommes donc dans le grand 2, la réconciliation présente. Mais maintenant, donc comment Dieu s'est-il pris pour nous faire passer de l'état d'hostilité contre lui à l'état d'harmonie avec Dieu? La réponse est par la réconciliation. C'est ce qu'il faut compléter. Donc pour retrouver l'unité et l'harmonie personnelle avec soi, l'unité et l'harmonie avec les autres, il faut retrouver l'unité et l'harmonie avec Dieu. Et cela ne peut se faire que si les péchés qui séparent de Dieu soient ôtés. Regardons de près ce que Paul développe ici, et c'est très important concernant la réconciliation. Il a deux buts. D'abord, cesser l'hostilité. Parce que quand on est ennemi de l'autre, il y a une hostilité. On est en guerre contre Dieu. Donc le but de la réconciliation, c'est cesser l'hostilité. Mais aussi, Paul développe quelque chose de plus loin et plus important aussi, c'est de parfaire la sainteté. Parfaire la sainteté. Vous voyez, il dit au verset 21, il vous a maintenant réconcilié, verset 22, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut, sans tâche. C'est ce que je résume en le mot, parfaire la sainteté. Donc la réconciliation a ses deux buts. Cesser l'hostilité et parfaire la sainteté. Donc j'aimerais regarder le verset 21 en plus en détail avec vous. Il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair. D'abord, concernant la réconciliation, nous voyons en premier ici la personne de la réconciliation. Il. Donc la réconciliation, c'est la grande œuvre de Dieu. Car qui peut effacer le péché, selon vous? Qui peut pardonner le pécheur? Certainement pas le pécheur lui-même. Seul celui qui a été offensé, c'est-à-dire Dieu, c'est ce qu'il faut compléter ici, Dieu seul est en droit de le faire. La personne de la réconciliation, c'est Dieu même qui est à l'origine, qui a initié la réconciliation. Nous voyons aussi le bénéficiaire de la réconciliation. Il vous a maintenant, vous, les Colossiens, mais nous aussi, pour celui ou celle qui place leur confiance dans le moyen offert par Dieu pour notre réconciliation, c'est que nous pouvons être au bénéfice aujourd'hui même, si ce n'est pas encore le cas, pour vous, d'être réconciliés avec Dieu. Le moyen de la réconciliation, sa mort dans le corps de sa chair. Dans la réalité d'un corps de chair, comme la nôtre, mais exempt de péché, dans lequel Jésus est venu mourir pour nous, pour payer les prix, je dirais, incalculables, colossales de notre péché, de notre faute. À compléter ici la mort substitutive de Christ, la mort substitutive de Christ qui a pris notre place à la croix, a payé le châtiment que méritait le péché de tous ceux qui croient, rendant ainsi la réconciliation possible et effective. Regardez 2 Corinthiens chapitre 5, j'ai donné le verset 18 à 21, mais juste le verset 20. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Il n'est pas écrit « réconciliez-vous avec Dieu ». C'est l'erreur. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, mais il est dit « soyez réconciliés avec Dieu ». Pourquoi ? Parce que la réconciliation n'est pas une chose que l'homme acquiert par ses mérites ou selon une certaine condition, mais c'est un don de Dieu, comme Paul le dit en Romains 5, verset 11. « Nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui nous avons maintenant reçu, dans la version Darby, la réconciliation. » Donc c'est un don de Dieu, ça ne vient pas de l'effort ni le mérite de l'homme, mais c'est un don que Dieu nous donne, la réconciliation. C'est pour cela qu'il dit « soyez réconciliés avec Dieu » et non pas « réconciliez-vous avec Dieu ». Nous n'avons aucune capacité, c'est Dieu qui a tout initié et c'est Dieu qui met en œuvre pour que ça soit possible. Et quel est le but de la réconciliation? Pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible, sans reproche. Donc c'est la sainteté. Quel est le but final de la réconciliation? C'est la sainteté. Donc c'est le but du christianisme, on peut le résumer ainsi, et la ressemblance avec Christ. Ça c'est le plus important à retenir, Dieu nous a sauvés, non pas juste pour nous sauver du péché, mais Dieu a en vue que nous soyons avec lui pour toute l'éternité au paradis. Et pour cela, on ne peut pas être admis dans la présence de Dieu sans la perfection. Et Dieu est en train de faire, il a commencé et est en train de continuer et parfaire jusqu'à ce que nous soyons devant lui dans cet état sans faute, irrépréhensible et sans tâche, saint. Et je dirais en quelque sorte, si le but du christianisme est la ressemblance avec Christ, ça c'est ce qu'il faut compléter, c'est qu'en réalité, en quelque sorte, c'est la restauration de l'image de Dieu perdue lors de la chute d'Adam et d'Ève, en quelque sorte. Donc, regardons de près cette sainteté, la sanctification en trois points rapidement. Dans la Bible, quand on lit, la sanctification est une réalité présente. C'est ce que je qualifie de sanctification en tant que position. C'est ce que vous devrez compléter. Ça veut dire quoi? Nous sommes déjà saints en Jésus-Christ. Regardez 1 Corinthiens 1, verset 2, chapitre 1, verset 2. À l'église de Dieu qui est à Corinthe. Quelle est l'église de Dieu qui est à Corinthe? Ceux qui ont été sanctifiés. Vous voyez le temps du verbe? Ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. Il y a deux choses ici. Donc il y a la sanctification de position. On est déjà saints en Jésus-Christ. Imaginez juste l'image que je donne. Dieu le Père. Il y a le Dieu le Fils qui est assis à la droite du Père. Quand nous sommes à côté de Jésus-Christ, Dieu nous voit, le Père nous voit à travers lui. C'est plus l'homme imparfait qui voit, mais l'homme parfait, son Fils lui-même. Et il nous voit à travers lui. Ça, c'est la sainteté de position. On l'est déjà, une fois pour toutes. Mais, comme vous l'avez remarqué, juste dans ce verset que j'ai lu, 1 Corinthiens 1, verset 2, à ceux qui ont été sanctifiés, appelés à être saints. Notre position, on est saint une fois pour toutes, mais notre condition, ici-bas, ne l'est pas encore. Et on doit, à chaque jour, être saint, conforme à notre position. Ça, c'est que le deuxième point, appelé la sanctification progressive. C'est une vie progressive à l'image de Christ. Je me permets de donner cette image tout simplement. Parfois, ça ne nous parle pas. Qu'est-ce que ça veut dire être à l'image de Christ? Permettez-moi de juste une illustration. Vous savez, quand je vois mes péchés chez mes enfants, mes enfants vont être inquiets, qu'est-ce que je veux dire? Mais quand je vois mes péchés chez mes enfants, vous savez ce que ça me fait? Ça m'irrite. Ça m'agace. Et pourquoi? Tout simplement, c'est parce que c'est le reflet de mon image que je déteste et dont je rougis. Et donc, cela me renvoie au péché que je déteste. Et là, je le vois chez mes enfants. Mon seul espoir, si je peux dire, c'est que Dieu est en train de bâtir en moi quelque chose de mieux, quelque chose de parfait. C'est le trait de caractère de Christ pour que je lui ressemble. Comme j'ai dit, mes fils me ressemblent dans certains aspects du péché, je le vois dans leur vie, et je déteste. Mais merci Seigneur qu'il est en train de bâtir dans ma vie le caractère de son fils qui est le meilleur et ce à quoi il est en train de travailler chaque jour par l'Esprit de Dieu en nous. Et donc il y a de l'espoir parce que Dieu n'a pas fini son œuvre. Il est en train de le faire. Donc, nous avons vu la sanctification de position progressive ultime, que nous soyons devant lui saints, irrépréhensibles et sans tache. Donc, j'aimerais juste vous dire que cette œuvre de sanctification progressive, nous lisons dans le verset 23 de Colossiens, si vous l'avez bien remarqué, c'est l'œuvre de Dieu. Il est à l'œuvre incessante dans nos vies, mais elle s'accomplit, cette œuvre, en nous et par nous, au travers de notre persévérance dans la foi et l'espérance. Verset 23. Il est dit, si du moins vous demeurez fondés inébranlable dans la foi et sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Donc nous sommes coopérants. Dieu agit en nous, à travers nous, pour ce but glorieux de nous faire paraître le jour où Dieu va le mettre en évidence, que nous soyons comme Jésus-Christ, ressemblant à lui. Et comment Dieu fait? C'est intéressant de voir que le but, c'est de nous rendre parfaits pour ce monde glorieux. Mais il faut que nous soyons adaptés, n'est-ce pas? Et donc, c'est ce que Dieu fait. Il veut nous donner le caractère de Christ. Et il crée les conditions de notre entraînement, si vous voulez, ici, maintenant. Et cela fait souvent mal à la vieille nature. Pourquoi? Parce que quand vous lisez au Romains 5, versets 3 et 4, les moyens dans lesquels Dieu nous place pour nous transformer à l'image de Christ, ils se servent des afflictions. Nous lisons dans Romains 5, versets 3 et 4, l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. Donc Dieu veut nous rendre parfaits, adaptés au monde glorieux qui vient, parce qu'il veut donner le caractère de Christ en nous, mais pour cela, il a créé les conditions, il utilise les afflictions, les épreuves, et souvent cela fait mal à la vieille nature, n'est-ce pas? Mais Dieu est en train de construire, de bâtir quelque chose de durable pour toute l'éternité. Je voudrais juste, en application de ce que nous venons de nous entretenir, que désirons-nous vivre, que nous désirons vivre au quotidien dans la sainteté. 1 Pierre 1,15 que j'ai donné comme première application, que nous pouvons prier que Dieu nous donne le désir chaque jour de vivre dans la sainteté. C'est seulement ainsi que nous progressions petit à petit pour que nous ressemblions à Christ le jour où nous serons devant sa présence parfaitement. Ma question aussi, sommes-nous prêts apparaître devant lui. Ça, c'est ce qu'il faut compléter. Sommes-nous prêts à apparaître devant lui? Juste, vous allez peut-être sourire. Hein. Quand je me présente devant vous, vous me voyez ce soir. Hein, je me suis bien rasé, je me suis bien peigné, mes vêtements sont corrects, je dirais. Sinon, quelle horreur! Et quand j'ai réfléchi à ça, j'ai dit, combien plus devant Dieu qui voit non seulement l'extérieur, mais voit aussi l'intérieur. Rien ne lui est caché. Est-ce que j'ose me présenter avec légèreté devant sa présence? Dieu veut la perfection totale. Je ne peux pas dire, oui, j'ai encore une petite tache ici, donne-moi le temps Seigneur, il y a ça encore au feu, une pâte de dentifrice ici. Non, nous devrions nous préparer et être prêts. Et chaque jour, je voudrais juste qu'on se demande à soi-même, suis-je en progression dans ma sanctification? Vous savez, Dieu ne nous demande pas notre avis et tout moment est pour Dieu propice, pour nous prendre dans sa présence. Sommes-nous prêts? Avec une tête où les cheveux ne sont pas peignés? Avec un cœur où il y a beaucoup de choses qui n'est pas mis en ordre? Avec beaucoup de choses dans nos vies qui a encore à travailler? Prions que Dieu fasse son œuvre en nous et que nous désirons en même temps aussi coopérer afin que nous ressemblions à Christ. Et nous ne nous rougissons pas comme j'ai rougi quand je vois mes péchés dans la vie de mes enfants. Que je puisse me réjouir, non pas rougir, de ce que Dieu est en train de faire dans ma vie. Et que Dieu puisse, que ça puisse plaire à Dieu. Parce que c'est ce qu'il désire, c'est que nous ressemblions à son Fils dans tous les aspects de notre être. Et c'est ça le message de ce passage aujourd'hui. Dieu a un plan pour chacun de nous, notre sainteté. Notre sainteté. Prenez au sérieux. Et que Dieu vous bénisse. Juste avant de terminer, j'aimerais juste vous partager, donc de prier pour Hong Kong. Vous avez appris les nouvelles de Pierre qui n'est pas bonne du tout. Concernant la liberté, la sécurité, et j'imagine pour l'église, les églises en Hong Kong, et pensant bien aux frères et sœurs Gilles et Brenda. Aussi, si vous pouvez prier pour Daniel Rottier, comme je vous en ai partagé la dernière fois, et prier nos besoins les uns les autres, sans que nous puissions toujours être en train de prier, nous soutenir dans les luttes que chacun mène, et que Dieu nous aide par sa force. Bonne soirée, et à bientôt, Dieu voulant. Que Dieu vous garde. Au revoir.